Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Aujourd'hui, nous sommes au théâtre de Die pour un accueil de résidence. Harold, bonjour.
Bonjour.
Et donc, je vais quand même présenter tout le monde. Donc, nous avons aussi Laurent qui est participant à cette résidence et qui est le directeur artistique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bonjour à tous.
Puis, nous avons Isabelle aussi.
De rien, Yves.
Bonjour. Alors, Harold, qu'est-ce que c'est cette résidence et pourquoi ?
Les résidences de création, c'est une chose qu'on pratique depuis 2011, depuis que l'association Festival SOS Théâtre de Die a repris la gestion du théâtre. Donc on accueille tous les ans, c'est un peu variable au niveau du nombre, mais en général entre 10 et 12 compagnies différentes pour des périodes plus ou moins longues. Pour des temps de création, c'est-à-dire qu'on met à disposition l'outil théâtre avec à la fois évidemment du matériel et de l'immatériel, puisque un accueil de résidence, c'est pas seulement donner les clés d'un lieu à une compagnie comme celle de l'Ophélia Théâtre, qui est donc la compagnie de Laurent, pendant là en l'occurrence 2 semaines, c'est aussi s'impliquer dans l'accompagnement effectivement d'un projet de création en devenir qu'on choisit. Là, il y avait plein de raisons sur lesquelles on pourra dire 2 mots pour lesquelles on a souhaité accueillir l'Ophélia Théâtre. Donc par rapport à un projet. Et puis, quand je dis matériel, c'est que c'est toute l'équipe du théâtre qui est mobilisée pour faire que ce temps de résidence soit le plus nourri possible pour les artistes qu'on accueille, pour le projet, mais aussi pour les publics du territoire, puisque l'idée, c'est qu'une résidence, elle permette à une équipe artistique d'aller à la rencontre des habitants, quels qu'ils soient, que ce soit du tout public, des publics spécifiques. Et donc, c'est quasi systématique. Enfin, Isabelle, tu me les tromperas si je dis des bêtises, mais c'est systématique qu'il y ait toujours, évidemment, des actions qui soient dirigées vers des publics impliquant les artistes qu'on invite. Donc là, cette semaine, moi j'y étais pas, mais Isabelle va pouvoir en parler, on a organisé des stages autour justement de certains aspects artistiques du travail de la compagnie Ophélia Théâtre. Mais tu peux peut-être en dire 2 mots sur ce qui s'est passé la semaine dernière.
Parler du projet d'abord et puis après les actions.
Les actions, ok. Alors juste dire, sur le projet, on laissera évidemment à Laurent le soin de le présenter. Il s'agit de la nouvelle création donc de la compagnie qui s'appelle Les Bords du Monde et qui, comme dans les projets antérieurs que la compagnie a pu créer et qu'on avait vu Isabelle et moi, donc c'était Le Soleil juste après, voilà, la compagnie mêle en fait différentes disciplines artistiques qui vont de la musique au théâtre, à la danse, pour aborder des sujets comment je pourrais dire ça, je n'ose même pas dire d'actualité ou de du monde contemporain, mais en prise avec la réalité du monde dans lequel on vit, on va dire ça de manière très, très large. Après, la démarche de Laurent par rapport à cette thématique très vaste et très spécifique, mais encore une fois, je préfère qu'il en parle lui, il en parlera mieux que moi. Ce qui nous a séduit dans le travail de cette compagnie, outre évidemment que c'est une compagnie d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors ça c'est pas un élément de séduction, mais on a vocation à accueillir de manière régulière des compagnies du territoire, donc c'est un critère parmi d'autres, puisqu'elles sont d'Isère. Là, vraiment, dans ce travail spécifique, c'est justement cette pluridisciplinarité qui crée un monde poétique où le corps est véritablement la pierre angulaire du travail dramaturgique, chorégraphique, linguistique, musical. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai reçu les créations que j'avais vues de Laurent. Et mettre le corps au cœur du plateau, voilà, c'est une démarche qui nous parle. Mais peut-être peux-tu nous en dire plus sur la démarche de la compagnie et puis précisément sur ce spectacle.
Merci Harold. Bah, tu as déjà dit l'élément central, hein, par rapport au corps. Et c'est intéressant de voir comment quelqu'un d'extérieur peut recevoir le spectacle. Donc ça, c'était bien que tu commences à parler, parce que de l'intérieur, on fait vivre des choses. On essaie de trouver, en tous les cas, une vérité, quelque chose qui soit le plus juste possible. Et les artistes qui sont sur le plateau sont tous porteurs d'une vérité, de quelque chose qui leur est propre, de ce qui fait, ce qui fait leur vie, qu'ils sont en vie, et tout ce qui bouillonne en eux, tout ce qui peut brûler en eux. C'est ça qui peut m'intéresser, et c'est ça, me semble-t-il, l'enjeu de la transmission. C'est comment le public qui va venir, à un moment, va recevoir un peu de cette vie, un peu ou beaucoup, hein, on espère beaucoup, mais même si c'est, même si c'est, si je puis dire, à partir de différents médias, que ce soit la musique, que ce soit autour de la danse ou des mots, ce qui est encore une fois central, c'est quelle est l'urgence de chacun. Quand on monte un spectacle de théâtre, l'enjeu c'est pourquoi on fait ça, pourquoi on va convoquer un auditoire et pourquoi on est sur le plateau. Si on est sur le plateau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle en soi, et c'est ça qui amène là une vérité. Et cette vérité, elle touche à notre humanité, en fait, au bout du compte. C'est un moment, c'est une sorte de... C'est sonder aussi notre propre humanité par rapport à son cri, sa colère, mais son appel avant tout à être debout, à être en mouvement, et son appel avant tout à être dans la vie. Et ce qui fait que tous les artistes qui sont sur le plateau, oui, je parlais d'expériences de vie peut-être un peu particulières, mais qui forgent quelque chose, qui amènent quelque chose en plus, qu'on vienne des favelas du Brésil ou qu'on soit comédien réfugié politique syrien ou on vienne des périphéries du Maroc ou de la rue du Togo. Bien évidemment, ça ne suffit pas, mais ce qu'on a traversé fait que on a notre corps, on a tout notre être qui en est pétri, qui en est nourri. Et en même temps, si on va sur un plateau, c'est qu'à un moment, tout ce qu'on a en nous, c'est un espace pour le travailler, pour le libérer, mais surtout pour en faire quelque chose qui va toucher, qui va toucher le public au plus profond, on l'espère, de lui-même. Et ce qui fait que quand Harold parlait du spectacle en prise avec le réel, oui, le réel est un appui, il est là, mais on n'est pas du tout dans du réalisme pour autant. Voilà, absolument pas dans du réalisme. Mais les moments les plus poétiques vont à un moment, effectivement, avoir un appui sur du réel, mais après on le transforme, on le décale, on le fait bouger, et en tous les cas aujourd'hui dans cette nouvelle création et la manière dont on a abordé le travail, c'est à partir d'improvisation, et toutes les improvisations partent essentiellement des relations entre chacun, et c'est là, c'est-à-dire il n'y a pas un sujet très précis qui est donné à chacun avant l'improvisation, mais c'est plus une indication d'une relation qu'il va pouvoir avoir avec un autre artiste sur le plateau. Et là, il y a des choses qui vont monter, des choses qui vont sortir. Et ensuite, nous, on guide, on pousse, on impulse pour amener dans telle ou telle direction. On sent quelque chose qui, dans un rapport d'affection qui commence à se dessiner, ben on va le pousser. Et l'outil, c'est le corps. Voilà, souvent, c'est quand même le corps, mais aussi la voix, notamment les Syriens sont comédiens avant tout, donc il y a sûrement par rapport au soleil, d'ailleurs je pense, un peu plus de présence de texte, mais en même temps c'est pareil, c'est tout ce qui va traverser tous les impros qu'on a pu faire. On n'a pas, je pense qu'on va le garder ça, par exemple les concernant, on n'a pas un discours construit sur la Syrie, bien évidemment, parce que ça, on peut le lire n'importe où. Mais on a tout ce qui va traverser leur corps par rapport à ce qui se passe actuellement et ce qui a pu se passer. Ce qui fait qu'il y a plein de mots un peu désordonnés là, qui sont sortis en mélangeant français et arabe. Et c'est avant tout, c'est avant tout quelque chose qui ne parviennent pas à maîtriser, une impuissance qui ressort, mais en même temps une volonté de ne pas en rester là. Même si il peut y avoir le silence à un moment qui s'impose, parce qu'ils sentent que ça peut être vain, mais pourtant ça ne peut pas être vain, et c'est pour ça qu'ils continuent. Donc voilà, on n'a pas, c'est pas un spectacle discours du tout, mais c'est tout ce qui traverse chacun, que ce soit dans la favela, en Syrie, ou au Togo, ou au Maroc, et tous sont plutôt jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 23, 24 ans. Il y en a, après, il y en a les Syriens et Marocains sont plutôt autour des 30 ans. Mais il y a une vitalité en chacun. C'est ça aussi qui fait, je pense, alors que il y a un fond qui peut être dur, parce que chacun en prise avec une dureté dans la vie, il y a une fraîcheur en même temps qui permet de dépasser tout ça.
Isabelle, tu pourrais aussi nous parler de cette préparation, de cette résidence. C'est un travail de longue haleine, je suppose.
Bah après avoir vu Le Soleil juste après, oui, on s'est vu plusieurs fois avec Laurent, et puis on a imaginé ce qu'on avait envie de construire ensemble. Donc on n'a pas accueilli Le Soleil juste après, malheureusement, on aurait bien aimé. Mais voilà, cette résidence a pu se mettre en place, et puis on est heureux aussi d'accueillir le démarrage. C'est toujours chouette de voir un projet comme ça artistique qui naît, qui est clos. Donc, puis c'est une très très belle équipe. Voilà, c'est moi ce que je ressens en tous les cas du travail de Laurent, c'est aussi cette fulgurance, cette puissance qui émane du plateau par moment. Et donc c'était un peu ce qui s'est passé la semaine dernière quand on a fait l'atelier de danse afro-brésilienne et percussion. Il y avait 20 personnes sur scène, avec donc des habitants du Diwa et puis les artistes aussi qui se sont mêlés à nous, et c'était vraiment chouette de danser ensemble, les percussionnistes pareil, donc voilà, tout le monde était mélangé, ça a été une heure et demie de bonheur. Et puis après un échange, évidemment, entre les artistes et puis les participants, c'est vraiment important, parce que Laurent a une démarche assez particulière dans son travail, il part de ceux qui sont là, avec leur histoire. Il a rien décrit vraiment dans la tête avant de démarrer, et je l'observais l'autre fois quand il travaille, il est comme ça sur le voilà. Du coup, la radio ça va pas passer, mais c'est beau aussi de le voir travailler, voilà. Et puis on a fait aussi un atelier hip-hop avec une classe de 3e de l'option cirque, voilà. Ça c'était un beau moment aussi. Voilà, ils ont bien profité les jeunes, hein. C'était chouette, voilà.
Il y aura d'autres dates à venir encore avec cette résidence.
Et ben il y a la représentation. Le mardi 16 mai, à 20h, ici au théâtre, à ne pas manquer.
Laurent, je reviens vers vous. Vous parliez tout à l'heure d'être au plus près de la vérité par rapport à l'expression du corps. Et c'est pour ça que vous avez cherché aussi d'aller trouver des danseurs issus de divers endroits de la planète. Et peut-être d'y trouver une universalité dans l'expression.
En tout cas, ce qui m'intéresse... quand je travaille notamment avec le partenaire brésilien Penonchan, c'est le fait que ceux qui sont sur scène ne mentent pas. Il y a vraiment une personne ne triche. Il y a quelque chose comme ça qui est et qui n'est pas intellectualisé du tout. C'est pas du tout dans le cérébral que ça se joue, mais c'est dans une vérité du corps. Alors quand je pouvais parler de la phrase de Christian Bobin, hein, la vérité est ce qui brûle. La vérité est moins dans la parole que dans les yeux, les mains et le silence, mais ça peut vraiment complètement se parler pour chacun ces deux phrases. Ensuite, ça n'a pas été de mon côté également une démarche, on va dire, où j'avais pu anticiper. Je ne suis pas allé au Brésil, de toute façon, là, je vais aller chercher. Non, ça se fait toujours dans les rencontres. Donc, j'ai rencontré Penonchan du Brésil un peu par hasard, et pas vraiment par hasard, au Forum social européen, où ils avaient été invités par le Secours catholique pour un séminaire. Et moi, je co-animais un séminaire pour le FSE à Saint-Denis. Et c'est lors d'une soirée festive, je les ai croisés 5 minutes, je devais aller ailleurs, mais j'ai senti quelque chose inouïe comme énergie. Alors c'était là pour le coup, c'était simplement de la danse. C'était en 2003, donc ça remonte quand même à pratiquement 14 ans. Et du coup, j'ai envie de les connaître. Et c'est pour ça que ensuite, bon, je passe les détails, mais je suis allé au Brésil. Et là, on a senti qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'on avait envie de travailler ensemble. Et c'est eux qui m'ont demandé, en plus c'est ça qui est important, c'est eux qui m'ont demandé de travailler avec eux au départ. Et ce qui fait qu'on a monté un premier spectacle en 2006. Et puis depuis, pour moi, les choses doivent s'inscrivent toujours dans la durée. Je ne peux pas imaginer faire un coup et faire autre chose. C'est vraiment dans... Et ce qui fait qu'on en est au quatrième spectacle en partenariat avec Penonchan. Donc Penonchan, c'est un groupe, Grupo Penonchan travaille avec 150 enfants et jeunes des favelas et propose des ateliers de percussion, de capoeira, de danse. Et aujourd'hui, ceux qui sont sur le plateau, il y en a qui ont commencé à 5 ans avec Penonchan. Alors aujourd'hui, ils sont formateurs pour Penonchan, ils sont moniteurs, ils sont profs, on va dire, transmettent. C'est eux qui transmettent aux plus jeunes. Ce sont eux là, qui sont sur le plateau, qui ont 23-24 ans. Mais ils sont pétris de tout ça, ils sont nourris de toute cette histoire. Alors après, pour les autres, le Maroc, le Togo et la Syrie, c'est dans le cadre d'un festival qu'on organise, qui s'appelle le FITA. Et de même, le Togo, depuis 2004, je suis en lien avec eux, avec une compagnie qui a formé des jeunes et des rues aux arséniques. Et puis, d'où l'idée à un moment, bah tiens, voilà, pourquoi on pourrait aussi ouvrir sur d'autres cultures. Le Maroc, dans le cadre du FITA depuis 2002, le premier spectacle, c'était en 2002 que j'avais pour le premier FITA, ce qui fait qu'il y a un lien aussi très très fort. Et la même chose, donc en 2012, pour le Soleil juste après, l'idée c'était mêler les cultures entre Maroc, Togo et Brésil. C'était parti d'ailleurs d'une idée des Brésiliens, bien, mais si on ouvrait sur l'Afrique, si on voilà. Et puis suite au Soleil juste après, on est reparti de nouveau sur ce mélange. Et les Syriens, eux, je les ai fait venir toujours au FITA en 2012. Ils sont venus, ils sont restés en France. Ils ont demandé l'asile politique et depuis je les accompagne. On a coproduit leur spectacle, ce qu'ils ont monté en 2016 et qui est présenté d'ailleurs la semaine prochaine à Amman. Donc ils vont nous quitter pendant une semaine, ils présentent au Festival de la Francophonie en Jordanie. Et là c'est pareil, c'est un accompagnement dans la durée. Et là je me suis dit, bien, tiens, c'est peut-être l'occasion pour qu'on aille encore plus loin ensemble et qu'ils fassent partie du spectacle. Voilà, donc à chaque fois, encore une fois, ça part de rencontres, ça part de moments d'envie de faire des choses ensemble, et c'est pas je cherche pas, voilà, c'est les choses qui viennent parce qu'elles s'imposent.
Qu'est-ce qu'il y a autour en plus qu'on peut y trouver musicalement, oui, au niveau visuel peut-être aussi? Est-ce qu'il y a un apport de projection, de décor?
Alors, il y a un décor qui est assez présent. Déjà, mais du coup qui est présent à tout niveau, musicalement aussi, parce que le décor, c'est un instrument un peu comme le soleil, mais il est différent, mais il permet beaucoup de choses musicalement. Et donc oui, la musique est très présente, on est vraiment sur les trois niveaux, hein. Autour, on va dire, corps, danse, texte, théâtre et musique, chant. Et donc dans la musique, il y a deux percussionnistes brésiliens, un chanteur et musicien gnawa qui joue un peu tous les instruments, qui n'est pas encore là parce qu'il vient toujours dans le processus, il vient dans un second temps, se saisir un peu de toute la matière, il compose et il revient. Ce sont des compositions originales, toutes d'ailleurs, hein, mais justement à partir de ce qui s'est passé, de ce qui se passe sur le plateau. Et puis l'artiste togolais, il est aussi percussionniste. Donc voilà, c'est vrai qu'on est également sur les trois pays, hein, mais tous ont les mêmes racines africaines dans la musique, que ce soit Gnawa ou Togo ou Brésil, et ils se retrouvent, hein, il y a des appuis. Hein. Par contre, du côté Gnawa, on peut avoir quelque chose de plus mélodieux, avec la voix notamment, qui viennent se mêler aux percussions brésiliennes. Et tout ça, généralement, enfin, en tout cas pour le soleil, ça avait plutôt bien fonctionné, la relation à trois. Donc on va voir, hein. Chaque fois c'est un défi, hein. Mais je suis plutôt confiant sur ce qui peut se produire musicalement.
Alors, il y a quand même une sorte de dualité avec le corps ou une complémentarité entre le corps et les mots sur votre spectacle. Et est-ce que le corps, l'expression du corps, pallie au manque d'expression du mot qu'on peut ressentir peut-être ?
Là, tout est complètement relié, hein, vraiment. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des mots, ils viennent du corps, de toute façon. Donc, ils sont traversés, quelque chose qui est habité complètement. Donc, les deux, il n'y a pas de dichotomie, on n'est pas du tout dans une séparation des choses. Y a des, donc, du coup, c'est comme s'ils avaient traversé le corps, ils sortaient naturellement du corps. Une projection, et ça, c'est quelque chose qui vient, parce qu'à un moment, ça s'impose. Et si ça ne s'impose pas, il n'y a pas de mots. En fait, c'est ça. Il y a un mot parce qu'à un moment, ça s'impose et que là, il y a quelque chose qui sort, qui est un peu plus au niveau du voilà, qui est niveau verbal. Mais simple, mais ça ne vient pas, si je puis dire, encore une fois. Bon, il peut travailler, ça n'empêche pas, parce qu'il est en improvisation. Après, je retravaille pour affiner, pour que il peut y avoir des moments aussi poétiques et textuellement poétiques, bien évidemment. Hein. Mais à la source. La source, c'est pas un texte qui est plaqué du tout. C'est vraiment l'inverse. Il jaillit, il sort. Et il sort dans l'improvisation. Et si, même si c'est moi qui l'écris, parce que je peux l'écrire, et là, pour compléter, je pars de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Comme disait tout à l'heure peut-être Isabelle, lui, effectivement, là, je suis une éponge, je capte tout ce qui peut se produire, le moindre petit. Et dès qu'il se passe un petit truc, hop, j'en profite, je m'y glisse pour lancer quelque chose de nouveau, pour que ça rebondisse dans l'improvisation, mais également des fois dans les mots. Voilà. Tout est filmé aussi, il faut dire. Toutes les improvisations sont filmées, ce qui fait que ça permet... Quand c'est du texte, c'est les mots qui sortent, de les récupérer, sachant que souvent les improvisations peuvent se faire dans les langues maternelles. Bon, côté brésilien, il n'y a pas le choix, ils ne parlent que brésilien. Mais côté syrien, ils alternent en arabe et le français, parce que c'est très chouette quand ils parlent en français. Leur fragilité avec le français amène vraiment, vraiment quelque chose. Je pense qu'ils vont parler plus français qu'arabe. Ça me paraît maintenant évident, d'ailleurs. Parce que les Syriens, contrairement aux autres, d'ailleurs, ont jusqu'ici un travail beaucoup plus cérébral que les autres. Donc il fallait casser ça aussi, ce qui n'était pas... Peut-être, où il y avait une différence, elle était là. Les autres, c'est vraiment, il y a un côté presque animal, corps brut, comme ça, du corps, et là, ils étaient de partout, hein, leur parcours, d'où ils viennent, il y a plein de choses, leur formation universitaire. Mais là, on y arrive vraiment, ils lâchent prise. Mais en français. Ça marche vraiment bien en français parce qu'ils sont en situation de fragilité avec le français, et du coup les mots, il y a une recherche de mots, mais qui est là ils n'ont pas le temps de vraiment construire quelque chose. Et pour les autres, pour le togolais, c'est en mina, c'est évident. En français, à chaque fois, ça plonge. Lui, c'est l'inverse, parce qu'il a l'habitude avec le français, avec sa formation de... C'est un ancien enfant des rues qui a été formé par Atavigé, le conteur. Mais du coup, il s'est tellement... son seul appui, son seul repère, c'était lui, finalement, le conteur. Et donc, du coup, souvent, il reprend la posture du conteur et tout est faux.
au final. Enfin, tout, ça pourrait être juste, mais là, tout devient faux parce qu'il n'est, il dit pas, il raconte. Mais dès qu'il est en Mina, ça y est, c'est nouveau le corps qui parle. Dès qu'il est en français, ça perd, il est en surface. Et dès qu'il est en Mina, ça y est, là, il se fond. Donc voilà, donc on joue avec les langues maternelles, ce qui fait qu'on a, on doit filmer aussi pour, parce qu'on ne parle pas l'arabe, hein, pas encore, et en Mina encore moins, bien sûr. Donc du coup, il y a plein de choses qui nous échappent. Et puis, y a des beaux moments aussi d'improvisation corporelle, de danse, autres qu'il faut garder, des échanges à un moment qu'on va garder. Donc tout ça, c'est pour ça que tout est filmé. On a déjà beaucoup d'heures. Déjà, hein, voilà. Donc après, il y aura un second temps, parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps de s'y poser encore. Voilà, là, pour l'instant, ces deux premières semaines, c'est vraiment une recherche un peu tout azimut. Et puis ensuite, dans un second temps, je vais commencer à mieux regarder les vidéos pour reprendre, repartir de ce qui s'est fait et continuer le travail.
J'avais une question par rapport à Christian Bobin. C'est oui. Un auteur qui vous influence dans votre travail.
Ben, la dernière création, 2016, c'est à partir du texte de Christian Bobin. Donc oui, effectivement, c'est un auteur qui... Qui respire en moi, on va dire. Et la dernière création de 2016, c'était sur le texte, notamment la présence pure et d'autres extraits comme le Christo Coquelicot ou Mozart et la pluie. Et oui, je sais quelqu'un qui parle et qui crie en vérité. Donc c'est ça qui m'intéresse et qui me touche profondément. Toute l'humanité qui ressort. Et sous des formes complètement différentes, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est entre Bobin, le travail sur Bobin et l'écriture de Bobin et le soleil juste après et ce qui est en train de se dire sur les bords du monde, a priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est complètement relié. C'est tout est là. C'est que la forme qui est différente.
Harold, je reviens vers toi. Cette préparation amène aussi une tournée en Europe. Est-ce qu'il y a eu une coproduction pour cette résidence ?
Alors, coproduction, non, on ne peut pas parler de coproduction au sens strict du terme. C'est plutôt de l'ordre de l'accompagnement pour ce qui concerne notre capacité à être présent auprès des équipes artistiques qu'on accueille. J'aimerais bien qu'un jour, on soit en mesure, effectivement, de rentrer dans des logiques de coproduction. Et quand je dis coproduction, ça veut dire amener des moyens financiers dans la production d'un spectacle. C'est bien de ça dont il est question. Là, on est... dans le registre du soutien, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement on met un lieu à disposition, on essaye d'amener un minimum effectivement de soutien, on est dans du préachat de spectacles, donc ce qui facilite, j'espère un peu, grâce au réseau qu'a la compagnie, effectivement le montage de la production en tant que telle, mais on n'est pas effectivement, on n'a pas les moyens d'être dans des logiques de coproduction strict, ce qui est un regret, c'est pas un choix, c'est par défaut, encore une fois j'insiste là-dessus. Si on pouvait le faire, on le ferait bien volontiers. Ce qu'on estime que c'est effectivement le rôle des lieux que de pouvoir accompagner en production effectivement les compagnies qui les accueillent. Donc ça va peut-être pouvoir venir dans des temps pas forcément si lointains que cela, mais enfin voilà, c'est encore un peu prématuré pour en parler. Quoi qu'il en soit, donc après le devenir du spectacle une fois qu'il aura été créé, ça c'est surtout la compagnie qui peut répondre à la question sur justement leur projet de tournée, puisque nous par définition avec un accueil en résidence, on est à un moment de l'histoire d'un spectacle qui va avoir le jour et puis qui ensuite va avoir sa vie de spectacle. Effectivement, elle est à la rencontre des publics ici en France et peut-être ailleurs, mais là pour le coup je maîtrise pas le calendrier à venir, mais je sais pas, vous savez déjà un peu le devenir du spectacle.
Alors pour l'année prochaine, hein, pour cette année on préachat, on va être en Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France. Et la saison prochaine, une tournée en train de se préparer, en avec des dates de nouveau dans la région, mais aussi en Belgique, Luxembourg, Italie, on est en train de le préparer, et puis ailleurs, dans d'autres, notamment en Lorraine, on va notamment être à la scène nationale du Carreau, on va être à la maison de la culture de Namur, enfin voilà, et en Bretagne, au théâtre de Thionville, enfin voilà, il y a vraiment une belle tournée qui se prépare, et puis on finira à la Cartoucherie à Paris, voilà. Alors après, qui dit belle tournée, parce que tu parlais des questions de coproduction, ça ne veut pas dire que l'équipe financière est facile, hein, vraiment. Là, on va être en déficit cette année et l'année prochaine. Voilà, ce sont deux déficits annoncés. C'est chronique d'un déficit annoncé. voilà, mais bon, voilà. Mais après, c'est compliqué, sauf si on a des très bonnes surprises. On attend encore des réponses, notamment de l'OIF. Mais voilà, c'est complètement incertain. Après, on n'a pas le choix. De toute façon, autrement, on ne fait plus rien. Donc on a, mais c'est vrai que l'équipe budgétaire, pour le coup, on est 10, on est 12 sur le plateau. Enfin, voilà, c'est quand même toute la phase de préparation sur les deux mois. C'est aussi des coûts de logement, de nourriture. C'est énorme. On ajoute le transport. Mais voilà, après on va pas pleurer, on est content de le faire. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est toujours effectivement quelque chose où on part dans l'incertain complet. Là, déjà on y va un peu plus clair parce qu'il y a tous ces prix achats et même pour l'année prochaine. Mais c'est toujours une aventure aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui empêche de faire. Ça c'est important quand même.
Isabelle, est-ce que tu es instigatrice de cet accueil en résidence?
C'est des projets qu'on porte là avec Harold, oui.
Comment est-ce qu'on décide d'accueillir un spectacle comme celui-là, une création? Effectivement, c'est souvent, avec Isabelle, notre manière de travailler, des choix communs. Des fois, bon, ça peut arriver que ce soit elle qui voit des choses et puis que moi, je n'ai pas forcément la possibilité de les voir. Donc voilà, ça se fait inversement. Là, en l'occurrence, on essaie quand même... Enfin, pour ce qui est de cette compagnie-là, là, on avait vu... tous les deux le travail à des moments différents. On est, je crois, globalement sur une sensibilité artistique qui se recoupe à plein d'endroits ou qui se complète, et qui se complète d'ailleurs. Donc ce qui fait que, voilà, je peux vraiment dire qu'on travaille en binôme sur la programmation. Après, ce qui détermine vraiment l'opportunité d'un accueil, c'est plus largement la prise en compte de paramètres qui vont bien au-delà de la seule question artistique, celle financière qu'évoquait Laurent est pas du tout neutre. C'est-à-dire que là, concrètement, pour la résidence de cette compagnie, si eux, ils étaient pas partis sur une production structurée sur un déficit annoncé, comme tu viens de le dire. Nous, on n'aurait pas été en mesure, de toute façon, d'accueillir mieux, au sens économique du terme, la compagnie que ce qu'on a fait dans leur cas, qui est peu. En l'occurrence, puisque la compagnie assume son logement, son hébergement, etc. Et que nous, on met à disposition un lieu et un outil de travail et effectivement une date en préachat. Mais c'est dérisoire au regard effectivement des moyens que nécessite une production avec 17 personnes en permanence, 12 sur le plateau et 17 en équipe complète. Donc moi, je suis ravi de savoir qu'il y a tous les lieux que tu as évoqués tout à l'heure qui sont... c'est assez amusant, quelque part. Enfin, ça montre aussi les équilibres étranges dans lesquels le monde culturel aujourd'hui fonctionne, que ce soit pour les compagnies, pour les lieux, parce que qu'un spectacle qui va tourner dans je ne sais pas combien de scènes nationales et autres et finir à la Cartoucherie... naissent d'une certaine manière dans un théâtre en milieu rural de 200 places dans une ville de 4000 habitants. Voilà, c'est paradoxal. Voilà, je dis pas que c'est pas bien, rien, je porte aucun jugement, je dis juste que c'est paradoxal et on est de plus en plus souvent confronté, au bon sens du terme, à ce type de grand écart-là, parce que les conditions de création, de production sont complexes aujourd'hui et que le temps de création est quelque chose qui est sacrifié de plus en plus aux logiques économiques. Alors nous, on n'a pas de gros moyens à offrir, mais on les possibilités du temps, ça oui, c'est encore un luxe qu'on peut se permettre au Théâtre de Die et que manifestement on nous encourage, enfin quand je dis on, c'est nos partenaires institutionnels, on nous encourage à persévérer dans cette voie-là, donc on va tâcher effectivement de le faire. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe quand même de voir qu'un spectacle comme celui-là, il va faire ce type de tournée-là, avoir ce type de diffusion-là, en ayant été partiellement créé au Théâtre de Die.
Vous parliez de scène nationale, donc, et qui participe à une création au sein d'une scène régionale. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un manque de moyens au niveau national pour certaines compagnies, au point d'aller sur des structures plus petites ?
Je ne peux pas répondre à la place de la compagnie pour justement ces problématiques d'équipe de production. Ce que je peux dire, c'est que de manière générale, oui, les conditions de création sont de plus en plus difficiles, mais moins encore, je dirais, que les conditions de diffusion de manière générale. Parce que aujourd'hui, on arrive encore à créer, parce qu'effectivement, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, de toute façon, si une compagnie elle crée pas, elle meurt. Donc, elle va faire effectivement le choix sur une année, deux années d'être potentiellement déficitaire parce que sa survie en dépend. Si elle a plus de spectacles à faire vivre et à montrer, à aller à un public, voilà, la vie de la compagnie par définition s'arrête. Donc, c'est une espèce de fuite en avant comme ça qui est pour l'instant tenable tant qu'effectivement derrière il y a des réseaux de diffusion qui permettent d'amortir l'investissement initial et de pouvoir derrière créer à nouveau, parce que voilà, si tu fais un spectacle et que tu plonges, je pense que derrière c'est compliqué de retrouver une dynamique pour pouvoir inventer d'autres créations. Et aujourd'hui vraiment le champ de la diffusion c'est extrêmement restreint parce que les moyens pour tout type de structure, mais ça va des grosses comme des moyennes, comme des petites, en termes de diffusion, ont considérablement diminué. Je le dis souvent parce que c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Quand on sait que chaque année, là, depuis 2013, il y a entre 10 et 15 000 levées de rideaux en moins par an au niveau national, c'est-à-dire 10 à 15 000 représentations, tout style confondu, de Bercy en passant par des petites salles comme ici ou des cafés culture ou autres. Voilà, 15 000, c'est, enfin, entre 10 et 15 000, c'est depuis 2013. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40 000 possibilités de représentation qui ont été purement et simplement rayées de la carte. Soit parce que les salles programment moins, soit parce qu'il y a des salles confirmées, soit parce que énormément de festivals ont été purement et simplement liquidés, et qu'ils constituaient des points d'appui de réseaux de diffusion. Donc cette réalité-là, elle est de plus en plus aggravée, de plus en plus, enfin rendant la survie des compagnies de plus en plus difficile, peut-être plus encore que celle des lieux, parce que nous, à la limite, qu'est-ce qu'on fait si on a moins d'argent ? Alors, soit on en a vraiment beaucoup moins, et puis on va réduire considérablement la voilure, on va programmer beaucoup moins, faire beaucoup moins de résidences, mais on va essayer de maintenir effectivement les postes au sein de la structure. Une compagnie, si elle ne peut plus créer, elle n'a plus de raison d'être. Voilà, donc c'est un peu, enfin, j'ai l'air un peu pessimiste comme ça, mais c'est vrai que je suis pas très optimiste sur un monde meilleur pour la création et la diffusion. Voilà, je dis pas que tout va s'écrouler, que tout va disparaître, mais c'était déjà difficile. Je crains que ça ne le soit encore plus et qu'il faille effectivement inventer toujours, sans cesse. Des modalités d'existence ou réinventer en tout cas des modalités d'existence pour la création qui soient différentes de ce qu'on a pu connaître, parce que Moi, j'ai jamais connu l'âge d'or. Je suis pas la bonne génération. C'était celle d'avant moi. Voilà, je sais pas ce que c'est. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ça fait 25 ans que j'ai l'impression de devoir. Ouais, on a vu la toute fin, mais moi, j'avais pas trop bénéficié de la grande époque des années 80 et tout ça. Je suis arrivé trop tard, quoi. J'avais 10-15 ans de retard. C'est toujours cette sensation, ce sentiment, et qui n'est pas qu'un, comme ça, une perception imaginaire de ma part, mais d'être vraiment dans la lutte, quoi, enfin, dans le fait de devoir se battre, défendre, alors qu'on ne devrait faire que servir, et on n'a rien à défendre. Enfin, c'est dans l'absolu. Je dirais, un lieu de culture n'a pas besoin d'être défendu. C'est pas, voilà, il est menacé pour des mauvaises raisons, mais ça n'a pas besoin d'être défendu. Une parole artistique non plus. Elle a besoin d'être transmise, d'être reçue, d'être entendue, d'être partagée. Mais voilà. Or, malheureusement, on se retrouve dans des conditions qui font que il y a une forme de résistance obligatoire qui s'impose à tous les maillons de la chaîne de la création et de la diffusion. Ouais, enfin bon, c'est un avis très personnel, mais voilà, je maintiens.
Je reviens vers Laurent. Oui.
Juste pour compléter ce que disait Harold. Après, pour nous comme compagnie. On n'est pas en train de se dire qu'est-ce qu'on va devoir créer pour survivre, parce que ça ne passe pas en même temps dans ce sens-là. À un moment, quand on monte une création de ce style, c'est parce que c'est essentiel de la monter. C'est un brûlot. Enfin, quand je dis il y a le feu, oui, c'est une urgence. Et quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je disais, on le fait, et on le fera, et on le fera, et on continuera à le faire. Après, effectivement, ça demande une grande gymnastique, ça demande d'avoir mis des provisions, ça demande de ne pas se payer en animant des formations pour pouvoir éventuellement compléter financièrement, pour ne pas mettre la structure en péril. Mais on le sait que ça va, il y a des chances que ce soit déficitaire. C'est quelque chose qui est assumé en même temps, parce qu'on est quand même 12 sur le plateau, c'est quand même quelque chose de. Et c'est vrai que c'est encore plus compliqué. Peut-être aujourd'hui, parce que beaucoup de lieux sont amenés à réduire leur cachet, ne peuvent pas, même pour l'année prochaine, pour la tournée qui vient. Certains n'ont pas pu y aller parce qu'ils ont plus de financement, et d'autres ont dû réduire le montant. Alors ça met en plus, bien sûr, ça rajoute des difficultés. Après, quand on monte le bobin, là c'est beaucoup plus facile, on est trois sur le plateau, donc on pourrait se contenter de cela. En même temps, ça permet de c'est quand même là, pour le coup, financièrement, on est dans quelque chose qui de fait, et dont l'équilibre financier est beaucoup plus facile. Mais la question ne se pose pas en ces termes, encore une fois, c'est parce que c'est essentiel de monter. Et on monte quelque chose à un moment parce que vraiment ça brûle, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut. Et c'est pour ça que finalement après on met tout en œuvre pour, bien évidemment on se bat pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions, pas laisser trop de plumes, bien évidemment. Après, sur la question de l'accueil et de la production et l'accueil, on a 2 mois de création pour monter le spectacle ex nihilo, donc ça veut dire qu'on a on a vraiment besoin de ces 8 semaines et demie, et de fait on va passer sur différents lieux parce qu'il n'y a aucun lieu qui peut nous accueillir sur 8 semaines. Ce qui est avant tout, tu évoquais le fait de commencer ici, ce qui est vraiment, vraiment essentiel, c'est, et pour toute l'équipe, pour nous tous, c'est comment on se sent dans un lieu. C'est ça, enfin, le reste, c'est pas, il peut y avoir quelques questions financières, mais c'est vraiment comment on se sent dans un lieu. Et c'est un peu la manière dont je vais travailler avec le groupe, c'est comment le groupe va se sentir complètement à son aise. Et ici, c'est formidable, parce que effectivement, on est complètement libre, on a les clés, on fait ce qu'on veut, on se sent complètement en liberté dans un endroit en plus qui est vraiment chouette, ce qui fait que les conditions sont optimales. S'il n'y a pas besoin d'une scène nationale, c'est-à-dire on a tout là, même plus.
On a tout et même plus parce qu'on a un contact vraiment humain direct. On n'est pas, il n'y a pas plein d'intermédiaires. On est directement en lien et ça permet de faire des choses toutes simples mais très belles comme pour les ateliers du mercredi. Voilà, c'est en toute simplicité et c'est ça qui est important. Enfin, mais vraiment, je le dis pas ça en l'air parce que c'est vraiment ce qu'on vit et ce type de projet dont je parlais de l'urgence et c'est l'urgence aussi, c'est de continuer à vivre ces aventures humaines parce qu'on est dans l'aventure artistique et l'aventure humaine. Les deux sont complètement reliés. Et c'est un tout, c'est vraiment un tout. C'est ce qui se passe dans le groupe, ce qui se passe autour du groupe, c'est ce qu'on va transmettre autour de nous et comment on va vivre ce qu'on vit en communauté. Là, finalement, elle est 17 pendant 3 mois et comment on partage ça avec autour de nous. Donc oui, ce type d'accueil, et en plus pour commencer le travail, c'est parfait. On va être dans d'autres lieux où je sais que ça sera moins chaleureux, je le sais, voilà. Mais là, oui, on est complètement en phase avec le projet, voilà.
Rajouter, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est que on pourrait tout. Enfin, je pense pas que si on avait des moyens à mettre en coproduction, on serait pour le moins. Enfin, on serait moins chaleureux ou moins accueillant. C'est que c'est en ça qu'effectivement, bien sûr, que en plus, heureusement qu'on vous accueille. Enfin que vous êtes heureux d'être ici parce que si en plus c'était pas le cas voilà vous nous auriez déjà abandonné, vous auriez eu raison. Ce que je veux dire voilà, c'est que c'est pas incompatible et que c'est une question d'état d'esprit et que on peut avoir des moyens et faire les choses sans cette humanité dont tu parlais. On peut ne pas avoir les moyens et voilà, mais on peut aussi avoir les moyens et être humain. Il y a quand même heureusement encore quelques lieux où c'est possible et au Théâtre du Dit, on espère avoir un jour la possibilité d'être performant sur les deux plans. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et après, j'ai aucun complexe par rapport au fait que le spectacle soit créé ici. Et puis, au contraire, c'est plutôt une fierté qu'il aille à la Cartoucherie, voilà, qui est un lieu fondateur pour moi de ma culture théâtrale et de mon amour pour ce métier, enfin, pour plein de raisons. Donc, c'est des... comment dirais-je, ça correspond à des parcours de vie au sens large du terme, et le spectacle vivant précisément n'échappe pas à ça. Voilà, il peut grandir à la campagne et puis ensuite aller dans les villes et puis ensuite aller faire le tour du monde, et c'est pas incompatible.
Laurent, on peut peut-être rappeler aux auditeurs le titre du spectacle.
Alors, Les bords du monde.
Et donc avec 12 artistes, comédiens, danseurs, musiciens, poètes aussi, sur scène.
Bah, tous ont une poésie au moins du corps, oui. Mais c'est comme tout un chacun, c'est à partir du moment où c'est ce qu'on travaille, c'est la matière pour révéler justement la poésie de chacun. Ça peut passer par un mouvement, par un regard, il y a plein de manières possibles de transmettre ce qu'on a en nous, tout simplement.
Eh bien, je vous remercie Isabelle, Harold et Laurent d'être restés à notre micro pendant presque 3/4 d'heure. Voilà. Et puis, bon spectacle et bonne suite.
Merci. Merci.